Le cercle rouge de Edgar Wallace. Chapitre 29. Le cercle rouge. Harvey Froyant se vantait de ne mettre sa confiance en personne. Il avait chargé Egitt de rechercher ses billets. Mais, vu les affaires que cette maison faisait avec des gens peu recommandables, il s'en méfiait fortement. Deux jours après la tentative d'assassinat commise contre Parr, le vieux Egitt se fit présenter chez le millionnaire. Il lui annonça qu'il avait découvert le passage d'une partie de ses billets dans un établissement public. « Maintenant que nous tenons la piste, » ajouta l'homme d'affaires en se frottant les mains, « il nous sera facile de mettre le doigt sur celui qui a le premier remis ses billets en circulation. » Mais M. Froyant ne l'entendait pas ainsi. Il ne pouvait ni ne voulait laisser toute l'affaire entre les mains d'Egitt. Je suis désolé de cette décision, » lui répondit ce dernier. « J'ai opéré moi-même les premières recherches. Et je vous assure qu'il y aurait maintenant bien peu de choses à faire pour découvrir l'argent et l'homme que vous cherchez. » M. Froyant savait cela aussi bien que l'homme d'affaires. Il avait décidé d'agir par lui-même. Muni des renseignements fournis par Egitt, il fit une minutieuse enquête auprès des banques dont il était le client. Et le résultat en fut son départ précipité pour la France. Il ne passa que 2 heures à Paris et débarqua un beau matin à Toulouse. Sa chance, qu'il avait favorisée dès le début de ses recherches, ne l'abandonna point dans la grande ville méridionale. Il découvrit qu'un de ses anciens agents immobiliers était maintenant un avocat en renom de la ville. Monsieur Brassard le reçut d'autant mieux qu'il espérait le renouvellement des belles affaires d'autrefois. Mais il montra un peu moins d'enthousiasme lorsqu'il connut l'objet véritable de la visite de Monsieur Froyant. « Je ne suis pas au courant de ces choses, dit-il, car je ne suis pas un avocat d'assises, mais un avocat d'affaires. Cependant, à l'époque, la cause dont vous me parlez fit un certain bruit. Et je me souviens très bien de l'accusé, Marle, et aussi d'un autre, un Anglais. Un nommé Lightman? Parfaitement. 2 bandits, d'ailleurs. L'un d'eux avait tué le caissier et un employé d'une banque de Nîmes. Et tous deux furent impliqués dans un assassinat ici, à Toulouse. Je me rappelle fort bien tout cela, et surtout le tragique incident. Quel incident? Lorsqu'on a voulu exécuter Lightman, les aides du bourreau avaient dû boire plus que de raison pour se donner du courage. En tout cas, le couperet de la guillotine ne fonctionna pas comme il faut. Il tomba 3 fois. Et 3 fois, quelque chose l'arrêta dans sa course avant qu'il touchât le cou du condamné. Les spectateurs intervinrent, on est fort émotif ici dans le midi, et exigèrent que le condamné fût ramené en prison. Oui, c'est ainsi que le cercle rouge échappa à la peine capitale. À cet instant, M. Froyant, qui tenait une tasse de café à la main, la laissa choir, tant sa surprise était grande.
Le quoi? Comment l'avez-vous appelé?
Demanda-t-il en hurlant. Brassard le regarda à bouche bée.
Lightman, dit le cercle rouge, répondit-il enfin. C'était son surnom, connu de tous d'ailleurs. Mais si cette affaire vous intéresse spécialement, je vais appeler un de mes clercs qui s'était passionné pour ce procès. Il sonna, et un vieil homme, la plume sur l'oreille, entra.
« Jules, dit Brassard, vous souvenez-vous du cercle rouge ?»«
Oh, très bien, monsieur. J'ai assisté à l'exécution manquée.
Oh, ce fut horrible !»
ajouta-t-il en levant les mains au ciel.
« Pourquoi l'appelait-on « cercle rouge » ?»
demanda M. Froyant.
« À cause de sa marque !»
L'homme porta ses doigts à son cou.
« Sur sa gorge, monsieur, il y avait un cercle rouge parfaitement dessiné. C'était sa peau même qui avait cette couleur. Et il y avait une légende là-dessus. On prétendait qu'aucune lame ne pourrait jamais l'atteindre à cette place, à cause de ce signe qui opérait comme un charme. Je pense que ce n'était que ce qu'on nomme dans le peuple une envie, une de ces taches rouges indélébiles de naissance. Mais celle-ci était fort remarquable, à cause de sa forme régulière de circonférence. Lorsque cet individu eut été condamné à mort, beaucoup de gens assurèrent que l'exécution serait empêchée pour une cause ou pour une autre. Se doutait-il de l'influence néfaste qu'auraient nos vins généreux sur les aides chargées de monter la funèbre machine ? Quoi qu'il en soit, un malencontreux clou mal placé empêcha la sentence capitale d'être appliquée. M. Froyant écouta ce récit avec l'intérêt qu'on devine. Peu à peu, la vérité se faisait jour en lui. « Qu'advint-il par la suite ? » demanda-t-il au clerc. « Lightman, dit Cercle Rouge, fut déporté, envoyé au bagne dans une colonie lointaine. Marle n'avait été condamné qu'à quelques années, parce qu'il y avait un léger doute sur son cas. J'ai entendu dire plus tard que Lightman avait réussi à s'échapper du bagne, mais je ne sais si le fait est exact. »
M. Froyant remercia son hôte, passa le reste de la journée en fiévreuse recherche, alla voir le procureur général et termina son enquête par un long entretien avec le directeur de la prison, dans le bureau duquel il examina de nombreuses photographies. On peut dire qu'il se retira ce soir-là dans sa chambre d'hôte avec un sentiment de satisfaction complète, auquel s'ajoutait la plaisante pensée d'avoir réussi là où la plus habile police avait échoué. Il possédait le secret du cercle rouge.